Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Drôles de dames sur Fréquence 7, votre radio préférée. Nous sommes le mardi 5 mars à 3 jours de la journée internationale des droits des femmes. Rappelons que les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977, et ce pour inciter tous les pays à fêter les droits des femmes. Mais cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle, en Amérique du Nord et en Europe aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. En France, c'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des femmes, que le pays reconnaît le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Alors, 42 ans après cette reconnaissance, où en sommes-nous? Quelles luttes ont été menées et pour quelle victoire? Pour en parler, l'équipe de Drôles de Dames est allée à la rencontre de Françoise Orozco, militante féministe et membre du conseil d'administration de l'association Centre d'information sur les droits des femmes et des familles Ardèche. Voici son témoignage. Françoise, tu te considères féministe depuis les années 70. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie de militante? Quel événement pour toi a déclenché ton engagement dans les luttes?
Bonjour, mon engagement date plutôt des années 68, où le mouvement de libération des femmes a vu le jour avec un certain nombre d'événements qui n'étaient pas toujours très bien perçus par la population. Mais ensuite, mon engagement a été une constance. Une constance parce que, comme jeune femme, il n'y avait à l'époque pas de contraception, évidemment pas d'IVG, évidemment le viol n'était pas considéré comme un crime, évidemment il n'y avait pas la parité en politique, et puis les femmes étaient maltraitées. Il n'y avait aussi aucune égalité entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Donc, effectivement, je me suis inscrite, en gros, dans les années 70, autour de cette question. Alors, il est vrai que dans les premiers combats, il y a eu, en effet, de bagarrer pour la contraception, qui était quand même, pour les femmes, une gage de liberté. Ensuite, il y a eu l'IVG. Effectivement, on remercie toujours Simone Veil d'avoir fait voter cette loi. Moi, je veux rappeler quand même que, bien sûr, c'est elle, en tant que femme politique, ministre de la Santé, qui a réussi à faire passer cette loi. Et bien sûr pas grâce aux hommes de son parti, mais bien à la gauche. Par contre, aussi sous la pression des féministes, nous étions extrêmement nombreuses dans la rue. Nous avions à ce moment-là aussi mené des combats autour de Gisèle Halimi, puisque le combat sur l'IVG avait été très médiatisé par cette grande dame qu'est Gisèle Halimi. Par ailleurs, j'ai eu justement l'honneur d'être dans les salles quand elle plaidait pour faire aussi reconnaître le viol comme un crime qui n'était pas gagné à l'époque, loin de là. Et on a pu entendre, lorsqu'on était dans les tribunaux, on a pu entendre des horreurs, puisque pour les femmes violées, c'était un nouveau viol quand on s'adressait à elles, quand les juges s'adressaient à elles pour décrire ce qui leur était arrivé. Et bien souvent, ça n'était pas reconnu. Donc là, toutes ces choses-là m'ont amené à être toujours une militante autour de ces questions. Par ailleurs, il y a eu aussi après la question de la parité en politique. Là aussi, c'était des choses complètement scandaleuses. Et ça n'est pas fini, parce que à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait la parité. Alors c'est vrai que ça, les lois ont permis que dans certaines instances, notamment dans les grandes communes, notamment dans les régions, un petit peu au Sénat pour tous les départements qui sont en scrutin de liste. Mais bon, on n'y est pas encore. Par ailleurs, là aujourd'hui, le grand combat, c'est quand même les violences faites aux femmes. Le combat n'est pas fini. Et d'ailleurs, je me plais souvent à répéter, lorsque dans mes combats, qu'ils soient féministes ou politiques d'ailleurs, je distribue un tract à la sortie de lycée ou auprès de jeunes femmes, je leur dis « rien n'est jamais acquis, surtout tenez bon, soyez toujours vigilantes ». Et en ce qui concerne l'IVG, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, il faut vraiment rester vigilante. Et c'est clair qu'il faut mener le combat, et qu'il faut le mener politiquement, puisque c'est quand même, les décisions sont prises par les politiques. Mais il faut continuer à avoir des mouvements féministes qui poussent les politiques à partir sur ce terrain qui est quand même très important. Et moi, en tant que femme, j'y suis évidemment très attachée.
Aujourd'hui, tu es membre du conseil d'administration du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Aubenas. Qu'est-ce qui t'a engagée dans cette association ? Qu'est-ce qui t'a poussée à t'engager dans cette association ?
Alors, le CIDFF est effectivement à son bureau à Aubenas, mais à plusieurs structures dans toute l'Ardèche. C'est bien le CIDFF de l'Ardèche. Alors, ce qui m'a amené à rentrer au conseil d'administration, c'est que le CIDFF Ardèche a été créé dans mon village, à Saint-Maurice-d'Iby, à l'époque, il y a 40 ans maintenant. Donc, il y a 30 ans, on avait fait les 30 ans, justement, dans le village, à Saint-Maurice-d'Iby. C'était un moment extrêmement émouvant, parce qu'on a repensé à Mad Maury, qui était la créatrice, qui avait monté les bureaux dans sa propre maison et qui disait des choses assez intéressantes d'ailleurs. Elle disait « Être actrice de la création d'une association s'intéressant aux droits des femmes et à l'égalité entre femmes et hommes dans les années 80, au fin fond d'un petit village ardéchois, peut paraître quelque peu anachronique, voire étonnant ». Mais pourtant, elles l'ont fait. Et aujourd'hui, le CIDFF est quand même une structure extrêmement importante autour de l'accompagnement des femmes victimes de violences, autour de la formation pour les femmes, l'accompagnement dans la formation pour les femmes et l'accueil des femmes, notamment, oui, victimes de violences. Et moi, j'engage toute femme à prendre contact avec cette structure en cas de besoin et de venir quand elles font des expositions, notamment autour du 8 mars, ce qui arrive, mais elles interviennent aussi dans les lycées, elles interviennent dans des structures pour parler de toute cette dimension qui est aujourd'hui très nécessaire, bien sûr, et y compris dans notre département de l'Ardèche. Et à l'aube de la Journée internationale des droits des femmes, et non pas de la Journée de la femme, où certains se donnent bonne conscience en offrant une belle rose ou une nouvelle machine à laver ou un nouveau lave-vaisselle, j'aurais aimé citer donner une citation qui me tient particulièrement à cœur, qui est de la grande Louise Michel. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Voilà, merci de votre invitation.
Merci beaucoup, Françoise.
Boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils.
Depuis le début de cette année, il y a déjà eu 31 féminicides. Stop aux violences conjugales ou intrafamiliales. Le centre Hubertine Auclair, dont les principaux objectifs est la promotion de l'égalité hommes-femmes, a conçu un outil dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet outil se nomme le violentomètre. C'est une aide pour les femmes qui permet de classer de relations saines à dangereuses leurs propres relations avec leurs compagnons. Pour se libérer de l'emprise et de la peur, le chemin peut être parfois long pour prendre conscience de la manipulation, du chantage ou du contrôle qui peut être exercé sur nous par une personne de notre entourage. Parfois, cela peut prendre des proportions considérables, humiliations, menaces et même jusqu'à la violence physique. Avant d'en arriver là, une femme peut avoir besoin de poser des mots sur ce qu'elle vit au sein du couple. Le violentomètre est une indication de ce qu'aucune personne ne devrait vivre en compagnie des autres, et plus particulièrement dans une relation de couple. Alors, que peut-on faire lorsque cela arrive? Vers qui se tourner? J'ai envie de vous dire déjà, parlez-en autour de vous. Mais il est vrai que les personnes qui subissent des violences sont souvent isolées ou n'osent pas se confier. Il existe un numéro d'écoute national, gratuit, anonyme et non repérable sur les factures téléphoniques. C'est le 3919. Et puis, plus particulièrement sur Aubenas, vous pouvez vous adresser au Centre d'information du droit des femmes et des familles au numéro de téléphone 04 75 93 31 70. C'est au pôle de service des Oliviers. Pour vous ou pour vos enfants, ne l'oublions pas, eux aussi subissent l'impact des violences conjugales. Pour un aspect juridique, vous pouvez rencontrer des juristes au Conseil départemental de l'accès aux droits de l'Ardèche. La consultation y est gratuite. 04 75 66 40 28. Pour les droits à égalité hommes-femmes, parentalité, emploi, formation, lutte contre les violences, les permanences sont assurées par les juristes du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il suffit donc également d'appeler le secrétariat au 04 75 93 31 70. Depuis le 1er décembre 2023, les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier d'une aide financière, leur permettant de quitter rapidement leur foyer, de se mettre à l'abri et de faire face aux dépenses immédiates. La demande est formulée par la victime auprès de la CAF ou de la MSA en ligne sur caf.fr ou sur msa.fr, en remplissant un formulaire téléchargeable. Vous pouvez également vous rendre sur place ou bien faire un envoi postal. Pourtant, un bémol. Je suis allée y regarder de plus près et on vous demande de joindre au formulaire un document de moins de 12 mois qui atteste de la situation de violence. Ça peut être une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République. Pas toujours simple. Le montant de l'aide est compris entre 240 et plus de 1300 euros. Ça dépend de la situation financière de la victime et du nombre de ses enfants. Parmi les nouvelles mesures mises en place, le PAC Nouveau Départ, c'est un dispositif testé actuellement dans le département du Val-d'Oise. Et en 2024, dans 4 autres départements, la Côte d'Or, les Bouches-du-Rhône, la Réunion ainsi que le Lot-et-Garonne. 3 étapes. La première, des professionnels de proximité, médecins, policiers, gendarmes, associations et autres, seront formés pour vous accompagner si vous souhaitez vous séparer de votre partenaire. Ces professionnels transmettent votre demande à un référent coordinateur. L'étape 2, le référent coordinateur vous contacte en toute confidentialité dans les 5 jours qui suivent. Il évalue avec vous votre situation, identifie les besoins et organise une prise en charge rapide. Étape 3, on vous accompagne dans la durée, processus d'ouverture de vos droits sociaux, accès au logement, soutien psychologique, garde d'enfants et tout ce qui vous permettra dans votre vie quotidienne un nouveau départ. Ce PAC est encore expérimental. À voir si ce dispositif tient ses promesses et s'il peut être mis en œuvre rapidement dans tous les départements. À suivre donc.
Pas au courant?
Ah non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est dans les tuyaux.
Cure d'austérité pour l'année 2024. La Macronie veut nous imposer pour 2024 10 milliards d'économies. Où vont-ils aller les chercher? Une petite piste. Le projet de Gabriel Attal est de supprimer les cotisations patronales sur les salaires des saisonniers agricoles. Le ministère de la Culture impose des économies sur la création, 96 millions d'euros en moins. Union européenne, je vous recommande la lecture du journal Fakir, mars-avril 2024, 5 pages d'un article intitulé « Macron, lobbyiste chez Uber ». Comment le président français a saboté en coulisses des avancées sociales majeures pour 10 millions de travailleurs. Sabotage au niveau européen pour empêcher la reconnaissance des livreurs Uber, Deliveroo & Co. en travailleurs salariés. L'article se termine sur ces quelques lignes. Il ne faudra pas lâcher, en effet, contre Macron, Uber et leur monde, que les gens, les Jérémy, les Leïla, les Brahim, se réapproprient leurs droits, que l'on se tienne à leur côté et que l'on décide enfin démocratiquement des règles du jeu. À défaut, ne nous leurrons pas, la pente que nous font prendre Macron et ses amis nous mène vers le gouffre. Environnement, la centrale électrique de Gardanne n'utilise plus de charbon, elle s'est tournée vers le bois. Mais d'où vient-il ? Du Brésil, à 10 000 km de la France, 150 000 tonnes de bois sont exportées par an. C'est cela la transition écologique ? Sainte-Soline, un an après, 4 journées d'action prévues au mois de mars 2024, le 22, journée mondiale de l'eau, le 23, Comero Action, le 25, Mégaboom devant les gendarmeries et préfectures, le 31, récits et témoignages. La 69, toujours, privée d'eau, harcelée, la difficile résistance des écureuils face à la brutalité des forces de l'ordre. Localement, à Aubenas, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, grève féministe, rassemblement à 15h30 à l'Agora, départ en manif à 16h. Face aux attaques du gouvernement, des droites et extrêmes droites, partout, les femmes résistent. Saint-Pierre-de-Colombier, le chantier est stoppé, par contre, la gendarmerie ne chôme pas. 10 personnes ont été convoquées en février, 15 convocations sont prévues pour mars. La détermination des opposants ne faiblira pas dans ce dossier qui sont les éco-terroristes. Tribunal de Privas, procès de Philippe, notre camarade comparaissait ce matin devant le tribunal, en fait c'était le premier, devant le tribunal de Privas, 20 minutes d'audience délibérée le 29 mars. Il était accusé d'être présent sur la voie publique au moment d'une manif, alors que nous étions nombreux, ça a été le seul à être choisi. Délibéré donc le 29 mars, j'espère qu'il n'aura rien de grave. Enfin, l'IVG est inscrit dans la Constitution. Merci à tous les parlementaires d'avoir contribuer à ce moment historique, en particulier à Mathilde Panot, jeune femme députée, de l'avoir défendue à l'Assemblée nationale. Pour la fin, une petite blague, conquête spatiale. Maintenant que Persévérance est arrivée sur Mars, ce serait bien que tolérance et bienveillance reviennent sur Terre.
Ça y est, moment historique, l'IVG est constitutionnalisée. Mais on doit comprendre que le droit de disposer de son corps pour la femme est le fruit d'une longue, très longue bataille même, à laquelle prendra part Gisèle Halimi, une voix phare du féminisme du XXe siècle, une grande dame, comme l'a dit Françoise dans son interview. Gisèle Halimi, qui nous a quittés en 2020, était une avocate et femme politique. Elle a cofondé avec Simone de Beauvoir, notamment, l'association Choisir la cause des femmes pour lutter pour l'abrogation de la loi de 1920 qui fait de l'avortement un crime. Elle sera députée à l'Assemblée nationale de 1981 à 1984. Elle prendra surtout part à des procès historiques, dont le procès de Bobigny, où sa plaidoirie pour l'avortement, restée célèbre, fait l'objet d'un texte publié aux éditions Folio, du même nom, texte que je vous recommande vivement. Alors, de quoi s'agit-il ? À l'automne 1972, a lieu un procès-événement qui entrera dans l'histoire. Gisèle Halimi plaide au sein du tribunal de Bobigny pour Michel Chevalier, mère d'une jeune fille de 17 ans, Marie-Claire, qu'elle a aidée à avorter l'année précédente à la suite d'un viol. l'avortement est considéré comme un acte illégal à ce moment-là. La maman, sa jeune fille, ainsi que trois autres femmes considérées comme complices, sont accusées d'avoir commis un délit. Après avoir défendu la jeune fille à huis clos devant le tribunal pour enfants, Gisèle Halimi défendra sa mère un mois plus tard, le 8 novembre 1972 pour être exact. Avec ces femmes, c'est aussi pour la dépénalisation que Gisèle Halimi se bat. Elle transformera le tribunal de Bobigny en une véritable arène politique. Le discours puissant qu'elle donne sera suivi de la loi Veil qui autorisera l'avortement en France en janvier 1975. Alors j'ai décidé de reprendre quelques phrases de ce discours vibrant en ces jours historiques. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes que la loi appelle des complices, avec ces femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Et à la fin de sa plaidoirie, Gisèle Halimi va ajouter ces mots puissants. Je vous dirai seulement encore deux mots. A-t-on encore aujourd'hui le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes? Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne fuis pas la difficulté et c'est pour cela que je parle de courage. Ce jugement de relax sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer, parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mises en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Alors, suite à ces mots, on est quand même en droit de s'interroger aujourd'hui, quand on entend encore en 2024 des propos sexistes, violents à l'égard des femmes. On comprend alors à quel point la lutte contre toutes les formes d'oppression sur les femmes est une bataille de tous les jours. Simone de Beauvoir disait déjà « Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse » pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » Alors, après le 8 mars, le 28 mars, il se passe quelque chose de particulier, puisque ce sera la journée mondiale contre l'endométriose. Vincent, peux-tu nous donner quelques précisions sur cette maladie encore taboue ?
L'endométriose est une maladie chronique qui touche des millions de femmes à travers le monde. Elle se caractérise par la présence de tissus semblables à la muqueuse de l'utérus, appelée endomètre, en dehors de l'utérus. Ce tissu peut se trouver sur les ovaires, les trompes de Fallope, le péritoine, voire même d'autres organes comme la vessie ou le côlon. Les symptômes de l'endométriose varient d'une femme à l'autre, mais ils peuvent inclure des douleurs pelviennes sévères, des règles abondantes et douloureuses, des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles digestifs, voire même des difficultés à concevoir. Et aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers de la bande dessinée, avec Endogirl, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes. Cette bande dessinée, écrite par Anne-Laure Tournier et illustrée par Tiffaine Rivière, nous amène dans un voyage captivant à travers les méandres de l'endométriose, une maladie souvent méconnue et taboue. À travers le récit de plusieurs femmes touchées par cette maladie, Endogirl lève le voile sur les symptômes, les traitements et les conséquences de l'endométriose sur la vie quotidienne des patientes de manière poignante et sincère. Les auteurs nous plongent dans le parcours de ces femmes, confrontées à la douleur, à l'incompréhension et parfois même à l'isolement. Mais au-delà de l'aspect médical, cette bande dessinée aborde également des thèmes plus larges liés à la santé des femmes, tels que le sexisme médical, les difficultés à être prises au sérieux par les professionnels de santé, ou encore les questionnements sur la maternité et la fertilité. Les illustrations de Tiffaine Rivière ajoutent une dimension visuelle forte à l'histoire, avec un trait à la fois délicat et percutant. Chaque page est une œuvre d'art qui donne vie aux émotions des personnages et captive le lecteur. Endogirl
Et bien plus qu'une simple bande dessinée, c'est un témoignage poignant, une source d'informations précieuse et un appel à briser les tabous autour de la santé féminine. Si vous êtes intéressé par la santé des femmes, ou si vous souhaitez simplement découvrir une œuvre forte et engagée, je ne peux que vous recommander chaudement de plonger dans l'univers de Ando Girl. Cette bande dessinée ne manquera pas de vous émouvoir, de vous informer, et je l'espère, de vous informer et à soutenir la cause de l'endométriose et de la santé des femmes. Si vous voulez plus d'infos concernant cette bande dessinée, retrouvez plus d'informations sur notre toute nouvelle page Facebook, Drôle de Dame F7. Voilà.
Voilà, Drôle de Dame, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
Au revoir. Au revoir.
Je suis la méchante qui casse l'ambiance en soirée. La terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fachosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissée, humiliée, agressée, frappée. J'ai été vilipendée, harcelée, cancelée, catcollée, insultée, touchée contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradée, dépréciée, dénigrée, écrasée, discréditée, méprisée, attaquée et blessée, toujours sous-estimée. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Bah quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Matriarche extrémiste ravageant l'écriture. La délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance. Présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissée, humiliée, dénigrée, écrasée, discréditée, harcelée, cancelée, méprisée, insultée et blessée. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez. Crois bien qu'après tout ça, je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez. Ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si